1, 2, 3, d'un an, 5, pardon, l'ensemble des chapitres 1 à 6. Moins le prologue, bien entendu. Et je vous montrerai tout à l'heure l'autre dessin. Tout ça, c'est un dessin, mais ceci n'est pas là. Ici, j'ai mis quelques-unes des correspondances. Vous pouvez voir que ces correspondances marchent dans ce sens-là. En horizontal et en diagonale. Et vous voyez quand même que le centre, nous aurons l'occasion d'y revenir, c'est au moment de l'entretien de Jésus avec la Samaritaine, au moment où Jésus dit « Moi, je suis », vous voyez, « je suis » de façon absolue, où il parle de l'adoration en esprit et vérité. Et c'est vraiment cette adoration en esprit et vérité qui fait, nous allons voir comment, qui fait l'unité de l'ensemble des six chapitres. Alors, reprenons, si vous voulez bien, ils sont ici, parce que je n'ai pas tout quand même, je vous mets les références par cœur. Et reprenons l'ensemble de ce que nous avons vu ce matin. C'est-à-dire le double signe du père et de la mère. Et c'est vrai que dans les pratiquement trois premiers versets, vous avez Jésus qui est là avec ses disciples aux environs de la mer de Tibériade. Et on note Tibériade. Vous avez la foule, vous avez les gens qui suivent, et puis vous avez un homme. Ceci, tu l'as dit, vrai. Et lui dit Seigneur, j'observe que prophète tu es toi. Nos pères dans cette montagne, et je préfère. Et vous, vous dites, quand Jérusalem est le lieu, là où il faut se prosterner. Il lui dit Jésus, prends-moi femme, qu'elle vienne, quand ni sur cette montagne, ni en Jérusalem, vous vous prosternerez devant le Père. Vous vous prosternez devant ce que vous ne savez pas. Nous nous prosternons devant ce que nous savons. Il disait ce nous. Nicodème, il dit ce nous devant la Samaritaine. Parce que le salut, il est des Juifs. Le salut prend un chemin. Ce chemin passe par le judaïsme. Mais elle vient l'heure, et c'est maintenant, quand les véritables adorateurs se prosterneront devant le Père en esprit. Et vérité, le Père, l'Esprit, la vérité. Nous retrouvons la Trinité. Car aussi le Père cherche de tels qui se prosternent devant lui. Esprit, il est Dieu. Et ceux qui se prosternent devant lui, c'est en esprit et vérité qu'il leur faut se prosterner. Vous comprenez que ça dépasse un petit peu le carton de la femme, hein? Regarde passer, mais elle lui dit la femme, je sais que Messie vient. Et voilà la deuxième fois où le terme Messie vient en toutes lettres. Pas Christ, Messie. Celui qui est dit Christ. Quand éventuellement il viendra, celui-là, il nous annoncera en détail tout. On reviendra bien de nous, hein. Entre temps, il faut vivre, c'est ça qu'elle dit là. Il lui dit Jésus, moi, je suis celui qui te parle. Nous traduisons généralement je le suis, mais moi je suis, c'est la manière dont Dieu se signale à Moïse au buisson ardent, chapitre 3 de l'Exode, verset 14. Moi je suis celui qui te parle. Et sur ceci, il vint à ses disciples. Et c'est étonnant qu'avec une femme il parle. Ne provient pas pas avec une femme. Vous voyez, les conseils de sagesse, il dit, ne va pas t'attabler avec une femme. Personne cependant ne dit, que cherches-tu, ou que parles-tu avec elle. Elle laissa donc Sajar, la femme qui est de vous déjà. Elle laissa Sajar. Elle n'a plus besoin d'eau. Elle va devenir eau vive pour les gens de sa mère. Et elle s'éloigna vers la ville et elle dit aux hommes, venez, voyez un homme qui me dit tout autant que je suis. Est-ce que celui-ci n'est pas le Dieu? Ils sortirent de la ville et ils venaient auprès de lui. Dans l'autre temps, ils lui demandaient les disciples, disant, Rabbi, mange. Or, il leur dit, moi j'ai un aliment à manger que vous ne savez pas. On ne sait rien. Hein? Ils disaient donc les disciples l'un à l'adresse de l'autre, est-ce que quelqu'un lui porta à manger? Soupçonne un peu la femme. Hein? Il leur dit, Jésus, mon aliment est afin que je fasse la volonté de celui qui me manda. Jésus dit lui-même qui l'est envoyé. Et que je consomme son œuvre. Il a parlé de signes, les œuvres que je fais, maintenant il parle d'œuvre. Vous, ne dites-vous pas, encore 4 mois et la moisson vient. Moi je vous dis, levez vos yeux, regardez le pays. Regardez les pays. Parce que blancs, ils sont auprès de la moisson. Les champs sont encore verts, mais les Samaritains sont la moisson qui est déjà mûre. Il suffit que la femme devienne eau vive pour ces Samaritains, pour ces co-religieux. Levez vos yeux et considérez le pays, parce que blancs, ils sont auprès de la moisson. Et mine de rien, voilà que la Samarie est déjà en train de se convertir à Jésus. Et que Jésus réunifie le royaume du nord et le royaume du sud. Déjà, celui qui moissonne reçoit un salaire et assemble du fruit vers une vie éternelle. Afin que celui qui sème ensemble se réjouisse. Voilà les fous qui se réjouissent. L'ami des fous qui se réjouissent. Afin que celui qui sème ensemble se réjouisse avec celui qui moissonne. Quand on sème, on ne sait pas ce qu'on aura à la récolte. Mais ça n'est rien. Que celui qui a semé, qui n'est peut-être pas celui qui récolte, se réjouisse pour celui qui va récolter. L'important, ce n'est pas que j'ai, l'important, c'est que Dieu soit. Qu'avant ceci, la parole est véritable. Autre celui qui sème, autre celui qui moissonne. Celui qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Moi, je vous envoyais moissonner. Ce pourquoi vous n'avez pas peiné. D'autres ont peiné et vous, dans leur peine, vous êtes entrés. Quand je reçois, vous tous qui recevez, la foi de quelqu'un, la profession de foi de quelqu'un, que ce soit un jeune ou un adulte, peu importe, d'autres ont payé. Mes parents, d'autres personnes, des instituteurs, des gens obscurs. Et vous, dans leur peine, vous êtes entrés. Vous accomplissez dans la joie de leur peine. Pas pour vous, pas pour eux, mais vous entrez dans la même joie du Seigneur qui est présent à travers tout ça. La joie de Jésus devant la moisson. De cette ville-là, beaucoup crurent vers lui, d'entre les Samaritains, en raison de la parole de la femme rendant témoignage. Il me dit tout autant que je suis. Comme donc ils vinrent auprès de lui, les Samaritains, ils lui demandaient de demeurer chez eux. Et il demeura là 2 jours. Et de beaucoup plus nombreux crurent en raison de sa parole à lui. Et à la femme, il disait, ce n'est plus en raison de ton parler que nous croyons, car nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde. Vous parlez de, on est passé de Messie à sauveur du monde. la femme a fait son service d'arrivée. Elle a introduit les Samaritains auprès de Jésus. Vous voyez qu'il y a quand même une cohérence dans le discours. Mais le discours s'ouvre de plus en plus. Or, après les deux jours, c'est le troisième. Cana, c'est le troisième. C'est le jour de la résurrection, le troisième jour. Après les deux jours, il sortit de là vers la Galilée, car lui, Jésus, rendit témoignage qu'un prophète, dans sa propre patrie, n'a pas de prix. Quand donc il vint vers la Galilée, il le reçut les Galiléens, se trouvant avoir vu tout autant qu'il fit en Jérusalem dans la fête, car eux aussi étaient venus vers la fête. C'est vrai qu'un prophète n'est pas bien accueilli dans sa patrie, mais ça peut quand même passer, vous voyez, il corrige quelque peu l'impression que nous avons en lisant les synoptiques. On vous dit qu'il ne peut pas, qu'il ne put faire beaucoup de miracles à Nazareth parce qu'il ne croyait pas en lui. Mais ça passe quand même. Saint Jean veut toujours montrer comment l'obstacle que nous faisons, que nous opposons à la vérité et à l'amour de Dieu, est toujours dépassé par l'amour de Dieu. Il est plus grand que l'obstacle que nous mettons. Et en même temps, il est respect de notre liberté. Alors, je prends la suite, parce que non seulement il nous faut avancer quelque peu, mais il faut arriver à la fin du chapitre 4. Oui, l'obstacle est grand. Donc après les deux jours, il est sorti de là vers la Galilée. Et donc il montre qu'il y a un espoir de résurrection, malgré l'opposition. Il va donc, de nouveau, vers le Cana de Galilée. On est parti de Cana et on revient. Vers le Cana de Galilée. Là où il fit l'eau,
il va voir s'il en reste.
C'est jamais. Et il y avait un certain officier royal, oui, il est d'un autre genre. Il y avait un certain officier royal. Qui est cet officier royal? Difficile à dire.
Un basique corse.
Probablement un officier royal des Rhodes, le roi. Et il employait beaucoup de mercenaires. C'est pourquoi on se dit le terme d'officier royal est probablement un mercenaire, donc un non-juif. C'est absolument sûr. Dont le fils s'affaiblissait en Capharnaüm. Celui-ci, ayant entendu que Jésus était venu de la Judée vers la Galilée, s'éloigna auprès de lui. Et il lui demandait, afin qu'il descendît et guérisse son fils. Et si ce n'est pas un serviteur, un fils. Car il allait mourir. La question de mort et de vie constamment. Il dit donc Jésus à son adresse, si éventuellement de signes et de prodiges, le terme est généralement utilisé dans l'Exode, les signes et les prodiges que Dieu fait par la main de Moïse, vous ne voyez pas, si éventuellement de signes et de prodiges vous ne voyez, certes vous ne croirez pas. Vous avez besoin de signes. Tous besoin de signes, le tout de savoir dans quelle mesure. Comme quoi. Et il dit à son adresse, l'officier royal, pas besoin de signes. Seigneur, descend avant qu'il meure un petit enfant. Jésus lui dit, fais route, ton fils vit. Il crut à la parole que lui dit Jésus, et il faisait route. Or, comme déjà il descendait, ses serviteurs vinrent à sa rencontre, disant que son enfant serviteur, ici n'a pas un autre, c'est le fils, c'est enfant serviteur, un terme païs qui signifie soit enfant, soit serviteur, vit. Mais c'est aussi le terme qui est utilisé par Isaïe pour dire le serviteur de Dieu. Que son serviteur vit. Donc voilà que la résurrection est passée dans cet enfant. Il s'informa donc chez eux de l'heure en laquelle il s'était senti plus en forme. Et lui dit l'autre, hier, septième heure, elle me laissa ma fièvre. Il connut donc le Père mais plus seulement savoir, connaître. Connaître, c'est la connaissance intime que l'homme a de sa femme dans la relation conjugale. Connaître, c'est quelque chose de très profond, c'est l'expérience. Il connut donc le Père, que c'était dans cette heure-là, en laquelle il lui avait dit Jésus, ton fils. Et c'est déjà tout un signe de résurrection. À travers la souffrance, à travers la mort, voilà que la vie éternelle, l'eau vivante, passe. Et il crut, lui, et sa maison tout entière. Or, ce deuxième signe, il le fit, Jésus, venant de la Judée vers la Galilée. Un autre appui pour vous dire, c'est bien comme ça qu'il s'agit. Alors, voyez, nous avons parcouru les trois parvis. Le premier parvis avec Nicodème, le deuxième avec la Samaritaine, et la Samaritaine nous a conduit aux confins des nations et avec l'officier royal, que ce soit maintenant les païens, que ce soit les Samaritains qui sont des gens hétérodoxes. Des protestants sur la marge, ou que ce soit des juifs, des bons parisiens, tous peuvent avoir accès dans une liberté renouvelée, l'accès au Fils de Dieu. Il suffit de découvrir et de recevoir son esprit de liberté. Et cet esprit de liberté, c'est un amour. C'est l'amour du Père partagé. Mais comment il avance doucement, et ici nous avons vraiment, c'est pour ça qu'il faut lire Saint Jean en lecture continue, et nous avons vraiment un mouvement qui s'approfondit constamment. Mais en intégrant constamment des thèmes nouveaux, nous étions partis de quelques notions très simples, et ces notions s'amplifient. Elles s'enrichissent au cœur même, au contact même de la vie. Donc nous avons repassé le pharisien, Nicodème. Quand nous voyons la femme, nous nous rendons bien compte que la soif se base sur un thème que vous connaissez bien dans les psaumes, hein, comme l'envie d'une biche après l'eau vive, tiens, l'eau vive, l'eau vivante. Ainsi l'envie de mon âme et toi mon Dieu, psaume 42, 43, 41, 42, vous avez là une des expressions où la soif symbolise la soif de Dieu. Bien vous pouvez prendre aussi, puisque nous l'avons vu, dans le livre d'Isaïe, on parle beaucoup d'eau dans l'Isaïe. Vous avez des eaux de Siloé qui coulent paisiblement et que Israël refuse, eh bien, il va recevoir les grandes eaux, hein, le fleuve Euphrate, qui va le submerger complètement. Eh bien, vous avez ce chapitre 12. Tu diras en ce jour-là, je te rends grâce, Seigneur, tu étais en colère contre moi, mais ta colère s'est calmée et tu m'as consolé. Voyez, il est le Dieu de mon salut. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte, car le Seigneur est ma force et mon chant, il est mon salut. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Certainement, ça sonne, mais m'a amené à Yeshua. L'eau du salut. Exactement de ça qu'il s'agit ici. Et nous passons ici en communication avec la communauté de Saint-Marie, symbolisée par la femme. De même que Marie symbolisait la réalité d'Israël et derrière elle toute l'humanité, ainsi la femme de Saint-Marie, Marie, symbolise la communauté de Saint-Marie, la communauté dissidente qui se met à découvrir non pas son unité avec le judaïsme, mais à découvrir plus profondément que Jésus est celui qui fait l'unité. Elle le découvre comme le Messie et les Samaritains comme le sauveur du monde. je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture l'importance du terme domé. Donne-moi à boire. Alors Jésus demande à la femme de lui donner à boire. Et il invite la femme à découvrir qu'elle n'est pas capable de lui donner à boire. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a des relations sociales qui ne le permettent pas. Elle ne peut pas lui donner. Donc, il y a de nouveau un manque. Vous voyez, il y avait un manque à Cana, il y avait un manque à Jérusalem, il y avait un manque chez le pharisien qui ne savait pas, il y a un manque aussi chez la femme. Elle ne peut pas, elle n'est pas capable de donner la vie, donner à boire. Jésus lui dit, il faut d'abord que tu reçoives pour combler ton manque. Si tu savais le don de Dieu, Nathanaël, don de Dieu, c'est Nathanaël, Dieu donné, si tu savais le don de Dieu. Et celui qui est celui qui te dit donne-moi à boire, toi, tu aurais réclamé, et il t'aurait donné de l'eau. Et de nouveau, il va passer, et ce schéma est très beau chez Saint Jean, il va passer de la réalité de l'eau, la réalité du tapis mouvant, de la vie, à la réalité profonde que l'eau signifie. L'eau, c'est le désir de boire. La femme, c'est pour ça que la femme va chercher de l'eau, c'est pas l'homme qui va chercher de l'eau, c'est la femme. La femme doit chercher la source et devenir source à la maison. Là, son rôle. En allant chercher l'eau et en devenant source pour les gens qui sont à la maison. Elle fait vraiment son rôle de femme, c'est-à-dire elle donne la vie. À son enfant, elle donnait son sein à boire, maintenant elle donne l'eau qu'elle va chercher à la source, comme un don de Dieu, et elle vient le donner à ceux qui sont dans la maison. Donc c'est, elle est elle-même expression du don de Dieu. Jésus l'appelle aussi femme. Toute femme est l'expression de ce don. Et la femme dit, mais elle remarque que Jésus a lui-même une impuissance. Tu n'as rien pour puiser le puits profond. Où vas-tu la prendre pour nous? Il faut aller chercher de l'eau vive, il faut aller tout au fond du puits. 28 mètres de profondeur. Est-ce que toi tu es plus grand que notre père Jacob? Et oui, elle retourne au père Jacob. Elle vous dit, notre père. Parce que notre père Jacob, il est à la fois père et de Jésus, des Juifs, et des Samaritains. Elle retrouve, en quelque sorte, dans ce désir profond, le désir de l'unité. Et lui, il en but, et ses fils, son bétail. Et alors Jésus se met à parler en énigme. Il parle de cette eau et l'eau que je donnerai. Il oppose deux eaux. Celui qui boit de cette eau aura soif de nouveau, et celui qui boira éventuellement de l'eau que moi je lui donnerai aura plus soif. Pourquoi? Parce que l'eau que je lui donnerai est une eau qui étanche. Et c'est comme une surabondance de cette eau-là. Ce que Jésus donne est un accomplissement par rapport à la figure qu'est l'eau. Oui, l'eau que je lui donnerai arrivera en lui comme une source d'eau jaillissante, qui va devenir une vraie source de foi pour les gens de Samarie. Et c'est exactement ce qui va se passer. Jésus dit à la femme ce qu'elle va faire. Elle va devenir non plus celle qui porte de l'eau pour une petite famille, mais elle va devenir celle qui porte l'eau pour tous les Samaritains. Et la vie de vous. Seigneur, donne-moi aussi. Il faut que pour cela, le mouvement surgisse de son cœur. Donne-moi aussi. Donne-moi à voir, dit Jésus, donne-moi aussi. Voilà, la communication est faite. Afin, évidemment, elle est encore au cours avec la fête, afin que je n'y perçois, que je ne traverse pas ici pour plaisir. Elle découvre déjà quelque chose, mais elle n'en a pas perçu toute la profondeur. Alors Jésus doit passer à un niveau ultérieur. L'eau est signe du désir de vivre. Mais ce qui fait vivre, c'est l'amour. Et alors, l'histoire de Sainte-Marie, là, on s'est bien rendu compte que, effectivement, la communauté samaritaine, tout au départ, était une communauté qui était construite sur cinq régions, qui appartenaient, cinq régions, cinq collines, si vous voulez, qui étaient chacune dédiées à un dieu. Si bien que les cinq Maries, les cinq Baal, c'était au fond cinq faux dieux. Alors, nous ne savons pas ce qui est de l'histoire et ce qui est de la symbolique. Mais on passe, évidemment, comme Saint-Jean fait toujours, de l'une à l'autre, sans tout faire.
Il disait aussi qu'elle tournait ses cinq Maries autour des droits de
Saint-Jean. Ah, peut-être bien. C'est possible, oui. Elle tournait en bruit.
C'est Dolto qui dit
ça. Oui, oui. Tu dis bien Dolto, je ne sais pas. Ça a cinq hommes qui est maintenant celui que tu as, il n'est pas content. Mais elle creuse en cette femme un désir plus profond qu'un désir d'eau. C'est un désir d'amour. Et elle n'a pas trouvé l'amour. Et elle va trouver l'amour en le donnant. Non pas en prenant à soi, mais en le donnant. Comme la joie de l'époux, de l'ami de l'époux. Et lui dit la femme, Seigneur, on voit que tu es un prophète. Alors, quand devant un prophète, on va chercher son petit catéchisme, hein, comme quand on parle avec un curé. Ah, vous êtes curé. Et, voilà. Et puis, alors, on a une question de catéchisme qui est. Mais c'est ça. Ah, tu es curé, ben voilà. Nos pères, peut-il dire, nous, on a toujours buté là-dessus. Nous, on se prosterne ici, vous êtes prosterné à Jérusalem. Ça ne va pas. Vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut, nous, on dit que c'est ici.
La seule chose qui
séparait
les Samaritains des
Juifs. La seule chose, derrière cette chose-là, il y avait beaucoup d'autres. Il y avait beaucoup de réalités sociologiques qui séparaient les Samaritains des Juifs. Ce qui séparait, d'abord et avant tout, c'est le schisme. Quand le royaume du Nord s'est séparé du royaume du Sud après le règne de Salomon. Alors, il y avait des raisons politiques, bien sûr, il y avait des raisons sociales, et ces raisons sociales ont pris de plus en plus le pas sur les autres. Alors, comme vous savez, en 1721, le royaume du Nord a été supprimé, les gens sont partis, enfin, une grande partie des gens est allée en Babylone, oui, en exil. Ils sont rentrés, l'exil, comme d'ailleurs les autres, c'est-à-dire deux endroits différents, Babylone et Ninive. Et quand on est rentré, il y a eu des essais de rapprochement. En effet, les gens de Samarie auraient bien voulu participer à la reconstruction du temple en 520. Mais les gens de Jérusalem n'ont jamais voulu. Il y avait déjà trop de difficultés avec les gens de Jérusalem. Ils n'ont pas voulu se mettre plus sur le dos. Et donc tout ça a fait que entre les deux rites, les deux cultes, il y a eu un cloisonnement chrétien. Alors ce cloisonnement est devenu tel qu'on en est arrivé un peu à ce que enfin, nous avons connu chez nous, surtout avant la guerre, c'est que bon, ces gens-là ne pensent pas comme nous, on ne va pas avec. On ne peut pas parler avec. C'est un petit peu ce qui se passait à l'époque. Mais la question fondamentale, comme pour nous aussi, hein, quand nous parlons avec des orthodoxes, ils reviennent toujours sur le film Yokoué. Hein, l'esprit qui procède du Père et du Fils. Alors, on ne peut pas avaler ce truc-là. Oui, c'est la cristallisation d'un problème qui est en fait un problème de tradition. Finalement, les deux traditions ont vécu des choses tellement différentes qu'il est bien difficile de se retrouver ensemble. Or, celui qui va faire l'unité, ici c'est Jésus, qui, en quelque sorte, anticipe sur ce qui va se passer. Nous avons vu dans les Actes des Apôtres, au chapitre 8e, vous avez justement Samarie qui va rentrer dans le giron de l'Église, si vous voulez, dans le giron du judaïsme, en se convertissant par Jésus. Déjà, nous avions vu dans les synoptiques que les gens qui venaient au baptême de Jean venaient à la fois du nord et du sud. Donc, il y a quand même dans les évangiles une prise de position qui veut nous dire, attention, la division entre le nord et le sud, ce n'est pas une division définitive. Elle est ordonnée à un rapprochement. Et je crois que c'est ça qui veut être mis en évidence ici dans le texte.
Mais aujourd'hui, ça ne joue plus.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que toute cette région-là, c'est une région palestinienne. La Samarie, c'est la Palestine. C'est un territoire occupé. Et donc il y a quand même encore une opposition. Et je crois qu'elle est restée toujours. L'opposition venant des territoires qui sont maintenant occupés sont de Philippe tradition. La Philistie, la bande de Gaza, la Samarie et l'Hébron. Ça a toujours été à travers toute l'histoire des projets. Les lieux qui n'ont jamais été parfaitement assimilés par Israël. Jamais parfaitement. Alors, voyez ce que Jésus, maintenant, puisque la question catéchétique est posée, bien Jésus va dire, il y a un dépassement du culte à un endroit ou à un autre. Et là, il est plus cohérent avec ce qu'il avait dit du temple. Le temple, c'est maintenant mon corps, avait-il dit. Et maintenant, vous vous prosternerez devant le Père, dans l'esprit et dans la vérité est dans sa propre personne. Donc le véritable adorateur, c'est celui qui se met à l'intérieur de la Trinité. Il ne parle pas en termes trinitaires, mais tout y est, tout est présent. Et voyez, Jésus va se manifester de plus en plus chez Saint Jean ici, comme le chemin unique de réunification d'Israël. Et puis, ce qui s'était passé avec la femme, se passe avec les disciples. Ce qui s'était passé à propos de boire, se passe à propos du manger. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Rabbi mange, mais j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous voyez, Jésus, en Saint Jean, fait toujours faire ce passage de la réalité extérieure à la réalité profonde.
Mais c'est toujours laborieux dans Saint Jean, toujours du quelconque.
Mais nous ne voulons pas. Il veut parler parce qu'il faut faire confiance. Ce qu'on tient, on tient. Ce qui est de la chair est chair. Ce qui est terrestre est terrestre. Il dit bien ça. J'ai un aliment à manger que vous ne savez pas, et il me dit, est-ce qu'on lui a apporté à manger? Alors il doit dire, mais non, mon aliment, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé quand même. C'est tout simple. Et de consommer son œuvre. Mais pour eux, ça ne paraît pas si simple. Alors vous dites, ben, vous dites, regardez, je vais vous donner un exemple. Vous dites, allez, c'est encore vert, toute la moisson est verte. Mais je vous dis, non, elle est blanche. Ah oui, mais tu veux parler de Samaritain, fallait le dire, mais c'est ce que je vous dis. Et voyez, cette femme qui venait simplement puiser de l'eau, devient, comme Jean-Baptiste, celle qui introduit les Samaritains à Jésus. Et c'est pourquoi elle a été appelée par les pères de l'Église, et surtout par saint Thomas, l'Église des gentils, l'Église des nations. Elle est symbole de l'Église des nations. Il y a l'Église qui vient du judaïsme, et il y a l'Église qui vient des nations. Bon, en fait, elle n'est pas des nations, puisque elle a beaucoup d'acquaintance avec le judaïsme. Mais elle est devenue, symboliquement, si vous voulez, dans la tradition chrétienne, elle est devenue la communauté dissidente qui revient. Alors vous voyez que, pour terminer, on retourne à Cana, et on a une autre version de ce qui s'était passé à Cana. À Cana, qu'est-ce qui s'était passé? Jésus avait transformé l'eau en vin. Il avait transformé la purification en amour, pour le dire autrement. Qu'est-ce qui se passe? Il transforme la mort en vie. C'est une autre manière, à Cana de Galilée, une autre manière de manifester ce qu'est sa véritable action dans le monde. Et cette fois-ci, il le fait pour un officier royal. Voilà, je m'aperçois, 17h10, nous allons attendre. Demain, si vous voulez bien. Nous reprenons à quelle heure pour reprendre oui, mais redisons un petit peu. Il y a première,
ce soir, c'est 8.
Fin de la première journée.
Voilà.
Fin de la première journée.
Nous allons revoir.
L'officier qui a parlé, on lui donne le signal. Bonjour. Bonjour, que vous avez bien dormi et que vous êtes bien sûr. Vous êtes capable de faire une deuxième. Deuxième étape dans cette évangile. En fait, nous allons, au début de la journée, reprendre un peu certaines choses que nous avons vues. Et nous allons essayer d'arriver ce midi à la fin du chapitre 6e. Après cela, nous reprendrons à partir de cet après-midi la deuxième, parce qu'il y a quatre étapes à voir dans l'évangile. Il faut que nous puissions voir comment ces quatre étapes sont quand même extrêmement bien constituées, et comment Saint-Jean est un maître orfèvre pour édifier un évangile. Nous avons déjà vu que les mêmes thèmes reviennent constamment, et depuis le prologue, nous n'aurons rien de neuf qu'à la fin de l'évangile. Ce qui peut être nouveau, c'est la manière dont Jésus remplit ce schéma qu'il nous a donné de départ. Et ce schéma du prologue est extrêmement important parce qu'il nous montre non pas ce que Jésus est en lui-même, même si cela va apparaître constamment, et même de plus en plus à travers l'évangile, et il nous montre comment ce que Jésus est en lui-même, il le donne à l'homme. Le verset central du prologue, je vous le rappelle, c'est dès le 12b. Or, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné autorité pour devenir enfants de Dieu. Il faut être grand pour devenir petit. Et cette autorité, il nous l'a donnée. Alors si nous reprenons le prologue, on m'a demandé d'où je tirais la traduction que je prenais. En fait, c'est celle que j'ai faite à partir du grec. Et donc, quand il y a des inversions, c'est parce que le grec inverse. C'est pour mettre en évidence telle ou telle chose dans les versets. Mais vous pouvez certainement vous reporter, notamment à la traduction de Saint Jean d'Arc, qui me semble-t-il actuellement est la meilleure, et j'ai vu qu'elle devait éditer seulement le texte français. Celui que j'ai, c'est le texte grec et français. Mais il paraît que, comme elle a édité les autres, à la fois en texte grec et français, ou français tout seul, eh bien, elle s'est annoncée. Je ne sais pas si ça déjà, je n'ai pas entendu. Mais dans le prologue, nous avons une construction qui va se reproduire. J'ai fait le grand chemin, de la descente et de la montée, nous verrons qu'elle revient constamment dans l'évangile. Mais on peut l'expliquer ou la visualiser d'une autre manière. Si vous prenez par exemple le début de l'évangile, début de l'évangile, donc on fait un petit carré ici. Voilà, on voit ici comment ça va marcher. Et encore un ici. C'est-à-dire, on part du début, on arrive à la fin. et on découvre un sang. C'est une autre manière de remettre le chemin. Or, si nous regardons le texte, nous voyons que il nous dit d'abord ce qui se passe en commencement. Donc nous partons d'un commencement. Et puis, nous allons terminer ce prologue en disant « Il nous l'a fait connaître. Il nous l'a révélé. Il nous l'a expliqué. » Ce qu'il est, il nous le dit. Et donc, il y a un chemin qui va vers une révélation. Et une révélation qui doit s'accomplir dans l'homme. Comme si Dieu, c'est un petit peu le schéma qui est proposé, comme si Dieu ne pouvait s'accomplir qu'en se donnant entièrement et en ayant son image dans ceux qu'il a appelés fils de Dieu. Et si vous regardez, effectivement, au centre, qu'est-ce que nous avons? Il leur donna autorité pour devenir enfants de Dieu. Pour devenir enfants. Vous voyez que les pères de l'Église répètent constamment « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » En faisant cela, ils ne font rien d'autre que d'expliciter ce que saint Jean exprime dans son prologue. « Dieu s'est fait homme pour que l'humanité, et chaque homme en particulier, puisse devenir enfant de Dieu. » Donc c'est bien de cela qu'il s'agit. Un itinéraire spirituel qui part de Dieu, qui arrive à la découverte et à la, non seulement à la découverte, mais à la mise en œuvre de cette liberté de devenir enfant de Dieu, pour rentrer avec Jésus vers le sein du Père. Alors qu'est-ce que vous avez au tout début? En commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Tout par elle demain. Par elle, la parole, par la parole, mais sa parole, devint. Donc, tout ce qui se passe, si vous voulez, tout ce qui arrive, est effectuation, est opération de la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. Vous avez les trois premiers versets qui sont ici résumés 1 à 3. Sont résumés dans tout le devin par la parole. La parole est active, la parole est performante. Puis nous voyons que Jean-Baptiste est noté comme celui qui vient d'auprès de Dieu. Arriva un homme envoyé de Dieu, ou devint un homme, si vous voulez, même la même traduction, devint un homme. Envoyé de Dieu. Donc voilà la deuxième proposition. Donc, la parole est active, mais il faut que la parole ait des médiations, des porteuses, des porteurs. Et ce porteur de parole arrive à un homme envoyé de Dieu, ce sont les versets 6 à 8. Et entre 1 et 3, et 6 à 8, qu'est-ce que nous avons? Elle était la vie, et la vie était lumière des hommes, et la lumière dans la ténèbre brille, et la ténèbre ne la pénétra pas. Donc ce qui est dit ici, c'est que la lumière était. Tout le reste devient, mais la lumière était. Elle reste, elle, ce qu'elle est. Et c'est parce qu'elle reste ce qu'elle est qu'elle peut constamment vivifier ce qui devient. Dans le verset 4, donc on voit bien la différence entre le devin qui signale un mouvement et
non pas quelque chose de statique, mais quelque chose de fondamental, qui est à l'origine, ce qui est. Et ce qui est va être manifesté constamment à travers l'Évangile par les affirmations de Jésus qui dit « Je suis ». Ou bien il dit « Je suis absolument », bien « Je suis la porte », »,« Je suis le pasteur », »,« Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Il va s'exprimer de manière différente, nous allons voir ce que ça signifie. Donc c'est vraiment cette réalité de Dieu fondamentale qui soutient tout ce qui devient ou le devenir. Puis, si nous reprenons la deuxième phrase, qui va s'inscrire ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, vous avez les versets 9 et 10. Elle était la lumière véritable qui illumine tout homme venant vers le monde. Dans le monde, elle était, le monde par elle arriva et le monde ne l'a connue. On reparle de la lumière. Et la lumière était. Et vous avez juste après cela, dans le monde elle était, et le monde par elle devint.
Le monde. De nouveau, je vais le lire, revient.
Et ici les deux choses sont liées. La lumière. Qui est et le devenir. C'est verset 9. Comme si les deux choses s'imbriquaient l'une dans l'autre. Et puis vous avez vraiment le centre, les versets 11 et 12. Vers ses propres biens ou vers ses propres elle vient, et ses propres ne la prirent pas avec lui, mais tout qu'il a reçu ou qu'il a pris, elle leur donna, le terme donner est important, à autorité pour devenir enfants de Dieu à ceux qui croient vers son Dieu. Donc ce qui est mis au centre, les versets 11 et 12, c'est vraiment ce qui est la foi. La foi, c'est recevoir de devenir enfant de Dieu. De l'autre côté, du côté de Dieu, c'est le don. Et puis nous avons. On donne souvent comme le centre du prologue, mais ce n'est pas le centre géographique du prologue. Le centre géographique, ce sont les versets 11 et 12. Mais ce qu'on donne généralement, c'est les versets 14 et 15.